Bien, ben maintenant que nous avons procédé à quelques petits aménagements, nous allons pouvoir commencer cet entretien avec Marie-Charlotte Delmas, que beaucoup d'entre vous connaissent, je pense déjà, parce que c'est une habituée des Imaginales depuis pas mal d'années. Alors jusqu'à maintenant, vous l'avez entendu parler beaucoup de dragons, de loups-garous ce
Loup-garou.
matin. Et là, ce qu'on ignore, c'est que à côté de cela, Marie-Charlotte Delmas est quelque part le croisement entre Paul Sébillot et Claude Seignolle, folkloriste et conteuse. Et là, un mélange formidable. Et elle vient de publier deux livres qui sont, on peut le dire, hein, je crois, quelque part la somme d'une vie de travail
Oui,
en
une vie
partie.
pas tout à fait finie, mais...
Disons la somme d'un début de vie.
Non, non, la somme de 25 années de recherche.
Voilà. Avec La France mystérieuse, qui est celui-ci, et vient tout juste de sortir il y a cette semaine, hein,
Il n'est
je
pas encore
crois.
sorti en
Ah, il n'est pas encore
librairie,
sorti en librairie.
il est
Vous
en
l'avez en
exclusivité,
avant-première
oui, en
ici.
avant-première.
Donc, ce
Il sort la semaine prochaine.
dictionnaire de la France merveilleuse. Et donc, dans ces deux énormes ouvrages extrêmement complets, Marie-Charlotte Delmas fait le tour de tout ce qui est folklore. Dans l'un, c'est orienté sur les croyances populaires, les superstitions, les rites magiques. Celui qui va sortir et que vous pouvez découvrir ici, dont on va parler en avant-première, donc c'est plutôt sur le sur est orienté sur le tout le surnaturel, les êtres fantastiques, les lieux enchantés, etc. Et donc l'ensemble représente la somme de tout ce qui existe dans le folklore français. Pas aujourd'hui, Marie-Charlotte.
Ah ben, je l'espère. Je l'espère. En tout cas, moi, j'ai travaillé uniquement sur, alors principalement, je vais dire sur le 19e siècle, puisque c'est à cette époque-là. Alors désolé pour ceux qui étaient au Loup-garou, qui étaient. Il y a des choses que je vais redire, mais c'est à cette époque que des personnes de bonne volonté ont compris qu'il fallait sauver une mémoire qui était en train de disparaître, celle de cette France rurale qui le restera jusque quasiment à la Seconde Guerre mondiale. Et l'électricité arrivant, on n'avait plus besoin de se retrouver dans les veillées pour économiser la lumière, le feu. Les gens commençaient à rester chez eux. Les traditions qui avaient jusque-là assuré une cohésion sociale de ces petites collectivités qu'étaient les hameaux, les villages, les cantons, voilà, tout ça était en train de disparaître au profit du progrès naissant, et donc ces hommes ont été collectés, recueillir ces histoires. Et donc moi j'ai travaillé sur les revues locales du 19e siècle. Alors on appelle ça les revues savantes. Vous savez, c'était des ecclésiastiques, des instituteurs, des juges, des fermiers, etc., qui se réunissaient et qui faisaient la revue du canton de chez machin dans l'heure, ou la revue de l'Ouest, truc. Et dans ces revues, il y avait un petit peu d'archéologie. Il y avait un petit peu de tradition, il y avait des histoires, il y avait du collectage de légendes, du collectage de contes. Le conte, c'est il était une fois, n'importe où, n'importe quand. La légende, elle, c'est un récit qui est vraiment incarné dans un lieu, souvent à une date déterminée ou à une époque déterminée. Voilà, même quand c'était avant. Et donc voilà, donc moi j'ai travaillé à partir de ça en essayant à chaque fois d'aller voir s'il y avait des revues antérieures pour retrouver un peu la source du premier témoignage. Souvent, les historiens locaux, dans une revue de 1860, ils vont donner la référence, ils vont dire, et monsieur Untel en a parlé dans telle revue de 1838. Donc, je suis allée chercher, voilà, pour essayer de retrouver des témoignages un petit peu sources. J'ai évité, y compris au 19e siècle, alors au 20e siècle, n'en parlons pas, mais j'ai évité tout ce qui était compilation, tout ce qui était enfin, tout ce qui n'était pas des témoignages précisément localisés, c'est-à-dire ça s'est passé à tel endroit, à telle période ou à environ, voilà, et pour ne garder justement que ces témoignages. Donc Je pense que j'ai forcément loupé des choses. J'ai pas tout mis, parce que le plus compliqué dans ce travail, ça a été le choix. Parce que je me retrouvais à la tête de milliers de références, et pour le tome 1, le choix, il fallait trouver à la fois des superstitions ou des croyances ou des rites que l'on retrouvait un petit peu partout en France, ou alors qui étaient très singuliers dans une région, parce que du coup ils étaient intéressants parce que singuliers, et on pouvait s'interroger sur leur existence. Et puis pour le 2, c'était un petit peu différent, parce qu'on retrouve, là c'était vraiment un choix de légende, pas trop abîmé par les récits successifs, pas trop pollué par l'édition naissante, et en particulier la littérature de colportage qui se répand vraiment dans les campagnes, beaucoup par les almanachs, la bibliothèque bleue, etc., l'imagerie aussi d'Épinal, et qui vient apporter d'autres détails, et il est vrai que c'est, je finis là-dessus Jean-Luc, mais il est vrai que ces conteurs, ces gens qui racontent ça à l'époque où on le recueille, ils n'ont pas pour objet de faire de l'ethnologie. Ils ont pour objet de raconter en enjolivant les choses et en y ajoutant des motifs. Alors, ils ont entendu dire ça, mais on va rajouter ça, etc. Donc, il faut faire un petit peu de tri là-dedans, sortir ce qui... vraiment les légendes qui paraissent vraiment très fictionnelles, de celles dont on sent qu'elles sont plus des récits, témoignages de quelque chose qui serait arrivé et qu'on continue à raconter parce que c'est surnaturel et que ça fait partie de l'histoire d'un lieu. Voilà.
Il y a une chose que j'ai trouvée absolument fascinante dans ce que vous venez d'expliquer et dans ce que vous expliquez dans vos livres, c'est que l'image de cette France qui est recueillie donc dans la deuxième moitié du 19e, grosso modo, est une France qui déjà n'existe presque plus, parce que vous soulignez que souvent, c'est mes grands-parents, mes arrière-grands-parents disaient que. Donc c'est une France qui a déjà disparu. On a la photographie d'une France qui n'existe plus, finalement, déjà à cette époque-là.
Alors je sais pas si elle existe, enfin peut-être... Peut-être,
qui est en voie de disparition.
Mais voilà, peut-être. C'est vrai que ça dépend, par exemple, pour les êtres surnaturels, ça dépend. Si on prend les dragons, les histoires de dragons, on dit c'était au Moyen-Âge, c'était tel saint qui a combattu tel dragon, etc. Donc, mais il a existé. C'était avant, mais il a existé. Donc on localise. Si on prend les fées, au 19e siècle, la croyance aux fées, elle est très atténuée. On trouve encore des personnes qui sont convaincues de leur existence, mais elle est atténuée. En revanche, on trouve la majorité des personnes sont convaincues qu'elles ont existé, même si elles n'existent plus. Donc, on raconte la légende au passé, parce qu'on n'en a pas vu dans les dernières décennies, on va dire, mais voilà, elles étaient là. Et le lieu va continuer, le dolmen, le menhir, la pierre naturelle, pourtant qu'elle soit remarquable, va continuer à s'appeler pierre au fait, roche au fait, etc. Pour les lutins, on y a cru un peu plus tard. Donc, il y a beaucoup plus d'histoires où c'est maintenant. C'est aussi maintenant. Pour les revenants et les fantômes, alors les revenants sont les revenants, c'est une distinction que je fais. Les revenants sont les retournants en chair et en os, et les fantômes, ce sont les formes spectrales évanescentes. Là, par contre, on est évidemment convaincus qu'elles existent toujours. Ensuite, il y a une migration des êtres surnaturels. La Dame Blanche, par exemple, qui est une fée, va migrer au 19e siècle. Alors, c'est une appellation que j'ai pas retrouvée avant le 19e siècle, mais elle va migrer dans la grande famille des fantômes. Voilà. Alors que jusque-là, c'était ces femmes blanches, un des démonologues, Jean Vierre, en parle au 16e siècle, en Allemagne, et il dit les femmes blanches, ce sont des fées. Des fées qu'on va retrouver dans les écuries, comme les fameux lutins des écuries. Enfin bon, donc elles sont très liées aux chevaux. Donc tout ça sont tous ces êtres surnaturels. On a le sentiment, je dis le sentiment parce que comme on est pauvre au Moyen-Âge, on ne peut pas faire de lien. Moi, je suis partie du savant naturaliste Pline et de ses 37 volumes, parce qu'il résume toute l'Antiquité avant lui. Ensuite, j'ai pris quelques textes du Moyen-Âge. J'en ai pris au XVIIe, j'en ai pris au XVIIIe un petit peu. L'essentiel étant du XIXe. Mais si on trouve quelque chose chez Pline qu'on va retrouver au XIXe, à aucun moment on peut assurer qu'il y a une continuité de la croyance. Aux mêmes effets, les mêmes causes, aux mêmes causes, les mêmes effets. Donc, on sait rien. On sait rien là-dessus. Bon, en revanche, on peut quand même, sur certaines superstitions, se dire que là, il y a une. Je pense au sort du coq à l'âne complètement. Désolé, Jean-Luc, mais tant que je l'ai en tête. Mais par exemple, la superstition qui consiste à pas se marier en mai parce que ça porte malheur. Qui est une superstition qui est déjà très très forte chez les, enfin une interdiction qui est déjà très forte chez les Romains. On va la retrouver assez tardivement. Et j'ai fait une conférence il y a quelques années en Loire-Atlantique où une dame m'a dit ah mais moi jamais on m'aurait laissé me marier en mai, ça porte malheur. Voilà, donc l'Église a essayé de dire c'est parce que c'est le mois de Marie, non c'est parce que c'était le mois de Vénus. Et donc et si on a placé Marie, c'est bien parce qu'il y avait Vénus. Donc il y a des choses dont voilà dont on peut se dire oui là on est à peu près sûr parce qu'on le retrouve à toutes les époques et il y a un vrai lien. Mais pour le reste, c'est un peu compliqué. Donc, j'ai dévié complètement du sujet. Je ne me plus quitter la question.
Non, mais c'était sur les filiations historiques à partir du portrait d'une France qui déjà était.
Ah voilà, oui. Donc cette France, non. Ce qu'il faut dire, c'est que cette France au XIXe siècle est en voie de disparition. Mais c'est une France. Alors, je le dis, je le redis. C'est une France qui a ses racines profondément enracinées. C'est le cas dans le paganisme. C'est-à-dire que les racines de la France, qui sont avant tout des racines païennes, lesquelles vont être christianisées, mais christianisées par des premiers chrétiens qui étaient eux aussi des païens, donc ils vont garder les mêmes rites. Les récupérer, mettre des églises sur les temples, sanctifier les mégalithes, sanctifier les arbres sacrés, les fontaines, etc. Voilà, donc cette France, c'est encore une France très, très collective, où la cohésion sociale est tournée autour du magico-religieux pour 99%, je dirais, parce que tous les grands actes de la vie, que ça soit la naissance, le mariage, la mort, etc., tous ces grands moments de la vie sont balisés d'un tas de croyances, de rites qui sont des rites soit magiques profanes, soit magiques religieux. Et puis, à côté de ça, toutes les grandes fêtes, que ce soit des fêtes religieuses, comme Noël, la Pentecôte, l'Ascension, je ne sais que d'autres, ou des fêtes profanes, comme le 1er janvier, comme enfin la Saint-Sylvestre, comme la Saint-Jean, qui est la fête la plus importante du calendrier, qui sont des fêtes profanes, où les rites sont totalement profane, parce que Saint-Jean, en l'occurrence, n'y a aucune part. Et donc, on se rend compte qu'à la fin du XIXe siècle, cette France, effectivement, qui va petit à petit céder la place, c'est une France où les racines païennes sont encore profondes, et où on, une France christianisée, mais... J'ai relevé tout un tas de témoignages où on demande aux paysans, mais vous savez qui c'est le Fils de Dieu en Bretagne, par exemple, ils répondent, c'est Saint Cornélie. Parce que pour eux, Saint Cornélie, c'est le saint qui a sa fontaine guérisseuse ou qui va aider pour les cultures, etc. C'est-à-dire que tous les saints vont se trouver dotés d'une fonction et la fontaine qui guérit les furoncles ou les clous, eh bien, on va l'attribuer à Saint Cloud. Donc, alors, on continue à aller faire guérir ces clous à la fontaine Saint Cloud, mais on va continuer le rite païen qu'il y avait avant. Les yeux, c'est Sainte Claire. Les estropiés vont à Sainte Eutrope, etc. C'est-à-dire qu'on va coller des noms de saints là où il y a des qui ressemblent à des noms de maladies. Ou alors on va prendre un morceau de la vie du saint pour essayer. Sainte Apolline, on lui casse les dents, et ben Sainte Apolline, elle va guérir les maux de dents. Voilà. Donc il y a tout un travail qui est fait comme ça où on va recoudre le païen et le chrétien pour pouvoir bénéficier non pas d'un changement de culture, ça n'existe pas, ça n'est pas possible, mais de ce qu'on appelle une acculturation, c'est-à-dire un passage d'une culture à l'autre. Voilà, je suis encore partie sur autre chose, mon pauvre.
Non, mais je crois qu'on ne s'en plaint pas, hein. C'est tout à fait passionnant. Marie-Charlotte Delmas, c'est le rêve du modérateur, parce que elle devance même les questions, etc. Alors, puisqu'on a commencé à parler là des rites et de la manière dont on a collé une nouvelle dénomination à quelque chose qui était ancien, comme ça, ça ne trompait personne, mais en même temps, ça permettait la récupération. Est-ce que, alors là, c'est une question que je me suis posée en lisant, en parcourant, je reconnais que ça se lit pas, mais on pioche dedans. C'est un plaisir de piocher dedans. Il y a une question que je me suis posée, justement, est-ce que cette acculturation, alors, continue. Est-ce que de nos jours, il y a encore une transformation de certains de ces vieux rites, de ces vieilles croyances qui s'adaptent à notre monde moderne, aux ordinateurs, aux voitures, etc.
Alors, rien de collectif. Et l'essentiel de ces rites, c'était le collectif. C'est-à-dire que si on allait se soigner à telle fontaine, c'est parce que les parents y avaient été, les grands-parents, tous les ancêtres du village, et que la fontaine avait effectivement fait ses preuves. C'était une fontaine guérisseuse, etc. On retrouve ça avec Lourdes, par exemple, avec l'apparition de la dame, comme dit Bernadette, qui apparaît dans une grotte qui était la grotte qu'on appelait des fadas. Les fadas, c'était les fées dans le coin. Donc, cette dame, elle ressemble étrangement à une fée au départ. Et la fontaine est une fontaine aux fées guérisseuses. Donc, voilà. Donc là, ça continue parce que ça devient effectivement un rite catholique, et qui va être, un peu collectif, parce que les gens qui sont malades vont aller à Lourdes, bon, voilà. Mais sinon, à partir du moment où on est sorti du collectif pour rentrer, et l'électricité y est pour beaucoup, pour rentrer dans l'individualité, non. Mais en revanche, la superstition, elle est, je dirais, anthropologique. C'est-à-dire, l'homme a besoin de croire. Et il y a des procédés, il y a des choses qui perdurent. Par exemple, si tu vas aux colonnes de Buren, ou si tu vas au parc du Luxembourg à Paris, ou si vous allez dans une fontaine n'importe où en France, et bien au-delà de la France d'ailleurs, vous allez trouver des pièces dans l'eau. Bon, les gens jettent des pièces. Enfin, je dis les gens, je peux jeter des pièces aussi. C'est pas du tout péjoratif. Moi, je ne porte aucun jugement sur aucune croyance. C'est pas mon job. Et donc, jette une pièce dans l'eau, ça porte bonheur. Évidemment, la personne qui fait ça, elle y croit sans y croire, parce que si bon, elle le fait en disant on ne sait jamais quoi, voilà, ça porte bonheur, mais elle n'a plus en conscience le fait de donner une offrande à la divinité de la source, bien entendu. Et c'était pourtant ça au départ. On donnait des offrandes aux pierres, aux fontaines, etc., comme cela se faisait dans l'Antiquité et comme cela se fera après dans le christianisme. On continuera des offrandes de blé, de pièces même, voilà, avec la quête et tout ça. Donc, chez les catholiques, mais on le fait quand même. Et dans les lieux, je parle des colonnes de Buren parce que c'est une fontaine très récente à Paris, au Palais Royal. Eh ben, l'eau est jonchée de pièces. Autre chose, ça m'a beaucoup amusé de voir cette histoire de cadenas sur les ponts, comme il y avait au pont Saint-André-des-Arts, mais on en trouve dans toutes les grandes capitales, parce que on lie le cadenas pour lier un amour, et ce faisant, sans le savoir, on reprend un des plus vieux procédés de magie ou de sorcellerie magique, qui est le procédé des ligatures. Voilà, parce que la magie, elle fonctionne par analogie. Ce que je lis ensemble va être lié. Ce que je délie va être délié. Et donc, du coup, en l'occurrence, on refait un lien avec un cadenas sur un pont pour lier un amour. Et c'est un très vieux procédé de ligature. Donc, et on ne sait pas d'où ça sort. Le coup, je parlais à midi, je ne sais plus, mais le coup de on se regarde dans les yeux quand on trinque, et donc les gens, ils sont tous là, vraiment. On a l'impression des grands malades, là, se regarder dans les yeux. Se regarder, c'est mieux que ne pas se regarder, mais se regarder dans les yeux. Et j'ai eu l'occasion de dire, je ne sais pas d'où ça sort. Parce qu'il y a quelques décennies, on vous aurait dit le contraire. On ne regarde jamais quelqu'un dans les yeux parce qu'on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui possède le mauvais œil et que regarder dans les yeux, c'est être soumis à la fascination. Et la fascination, c'est un procédé de sorcellerie. On fascine par le regard. Il y a beaucoup de procédés de sorcellerie qui sont passés dans le langage amoureux, d'ailleurs. Et donc la fascination, voilà, c'est ça. Donc, qui a sorti ça? Alors maintenant, on essaie de l'expliquer par des trucs, des machins, mais jamais, jamais on retrouvera ça. De la même façon, je parlais de vie collective, et là, je repense à un truc, c'est que, par exemple, les fêtes laïques n'ont jamais pris. C'est-à-dire que le 14 juillet, tout le monde s'en fichait à l'époque. Il a fallu qu'il y ait des renouveaux pour essayer de relancer. Et je pense même que les fameuses valeurs de la République, et pour l'instant, elles n'ont pas accroché par rapport à ces traditions un petit peu païennes. Bon, je referme la parenthèse parce que je pense à ça, parce qu'on m'avait posé la question sur les fêtes républicaines, les fêtes... C'est pas ce qu'ils... Eux, ce qu'ils voulaient, c'était avoir de bonnes récoltes, avoir une bonne santé, se soigner, manger, et donc tout tourne autour de ça, en fait. La vie.
Et est-ce que certains des... par exemple, le fait que les gens, encore aujourd'hui, par exemple, nomment leur voiture, ils donnent un nom à leur voiture, etc. Est-ce que ça vient de vieux rituels ou...
Qui donnent un nom à leur voiture? Oui. Ah, mais je ne savais même pas que les gens donnaient un nom à leur voiture.
Si, parce que moi, j'en ai entendu, et pas seulement Titine, bon, mais voilà, c'est Titine, mais il y a d'autres choses. Alors, je me suis posé la question, est-ce que ça... Non.
Non, parce que le nom est pas le
nom. Donner un nom à une chose, c'est pas
nommer, désigner. Oui. C'est-à-dire faire le signe, désigner. Oui. Ça peut être un signe de sorcellerie, qui est devenu d'ailleurs un anti-signe de politesse. C'est-à-dire qu'on montre pas du doigt. Non, on s'en fiche. Pourquoi on montrerait pas du doigt? Sauf que montrer du doigt, c'est désigner, et désigner, c'est faire le signe. Et donc c'était dangereux. Donc il y a des superstitions qui se sont transformées en gestes de politesse. Mettre la main devant la bouche quand on baille, c'est juste parce que voilà, quand on baille, on aspire. On peut donc aspirer les mauvais esprits. Et voilà, par contre, quand on éternue, on va vous dire, et ça c'était déjà le cas du temps des Romains et bien avant, on va vous souhaiter, on va acclamer cet éternuement, parce qu'en éternuant, on expulse des mauvais esprits. Donc, et on va vous dire, encore aujourd'hui, on va vous dire, à vos souhaits. Ça veut dire quoi, à vos souhaits? Le souhait, c'est un souhait magique. À vos souhaits. Voilà, il y a tout un tas de souhaits qu'on peut faire aux anniversaires, à la bonne année, etc., qui jadis étaient accompagnés de formules magiques. Et donc, pour le coup, voilà. Mais le nom, d'abord, très longtemps, le nom n'a pas été très important, y compris jusqu'à la fin du 19e siècle. Il n'y avait pas de faute d'orthographe dans les noms, donc c'est à dire s'il n'était pas. Hein, on l'appelait le roux, le grand, le machin, on désignait les gens plus par leur ferme, par leur taille, ça. Et il n'y a pas cette notion de. On est vraiment dans une. Le nom, il pouvait être important peut-être dans la magie savante, celle qui a été, tu vois. Vraiment créée, écrite par ces magiciens de la Renaissance, ces livres de magie qui sont apparus au XVIIe et au XVIIIe siècle, comme le Petit Albert, etc., qui sont des livres assez récents, qui ont repris des trucs, qui ont voulu reprendre le nom de l'alchimiste Albert le Grand, le pauvre, qui avait rien à voir avec tout ça, mais, et qui ont repris des petits bouts, enfin bon, bref. Mais non, le nom chez les paysans... c'est pas quelque chose, parce que le prénom, on le donne au baptême, il est lié au parrain et à la marraine, qui ont vraiment un rôle, alors là, rituel social, mais rituel aussi et magique, très très important, lors du baptême, et le baptême étant vraiment le moment de... l'agglomération du nouveau petit habitant à la communauté. Voilà. Avant, il n'est rien, il devient quelqu'un, il peut mourir, il ira. Voilà. Bon, je suis partie ailleurs, c'est ça?
Non, non, pas du tout. Très intéressant.
J'ai l'esprit d'escalier.
Non, non, mais c'est tout ça est tout à fait passionnant. Alors, il y a aussi, là, on vient de parler beaucoup donc des croyances populaires, des rituels, des superstitions. On peut peut-être aborder aussi un peu ce qui fait, parce que en plus, comme c'est passionnant, il retourne très vite. Donc, peut-être qu'on peut commencer à aborder aussi un petit peu certains des sujets du deuxième tome. Alors, vous y aviez fait allusion un petit peu tout à l'heure. Déjà, par exemple, toutes ces créatures, les fées, les lutins, etc. Peut-être vous pouvez nous en parler un petit peu, parce que ça, c'est quelque chose qui a perduré. Il y a encore des gens qui voient des fées aujourd'hui ?
Oui. Oui. Oui, mais alors ça a changé. Alors moi, il y a des gens qui viennent me parler parce que j'écris là-dessus, donc qui ont moins peur de se sentir ridicule, qui viennent me raconter des choses. Après, bon, moi j'ai jamais rien vu, hein, donc pas moi qui vais vous dire. Mais bon, ça a un petit peu changé. On parle d'énergie, on parle de voilà, des gens voient des choses. Peut-être, moi j'en sais rien, je sais pas, mais c'est quand même très très différent des fonctions. Souvent, j'entends parler par certains auteurs, ou j'entends dire par certains auteurs que je ne nommerai pas, le petit peuple. Et ça me fait un peu bondir parce que ça met dans le même sac des choses qu'il ne faut pas mettre dans le même sac. C'est-à-dire que les fées et les lutins, par exemple, sont vraiment deux, entre guillemets, espèces très différentes, qui ont des fonctions très différentes. Les fées, elles sont... Je ne peux pas dire sans aucun doute, je n'ai pas de preuves, mais elles semblent, et je suis assez prudente dans mes livres quand je n'ai pas de preuves, mais elles semblent vraiment, et archéologiquement, on peut aller dans ce sens, elles semblent vraiment être les descendantes des anciennes divinités, depuis les fameuses divinités de la Terre-Mère, par exemple, dont on a retrouvé quand même des divinités gallo-romaines. On en a retrouvé beaucoup, beaucoup de ces petites statuettes d'argile, de la mère assise avec l'enfant dessus, ou de ces trois femmes. Moi, j'ai fait le lien aussi entre les parcs romaines, qui étaient les moires grecques, et les fées, parce que les fées sont souvent par trois, et qu'au Moyen-Âge, on a quelques écrits de religieux, le seul vraiment patrimoine intéressant au Moyen-Âge, c'est les canons de concile et de synode. Parce que là, on y trouve des interdictions, et du coup, au travers de ces interdictions, on va trouver cités. Des faits, des monuments, à détruire, etc. Et donc, on les appelait les fatae ou les fatuae. Le mot fée vient du latin fatum, c'est-à-dire destinée. Donc, au départ, la fée, c'est bien quelqu'un qui est dans le destin, dans la destinée des individus. On retrouve cette idée de destinée avec quelques récits de fées, en particulier dans les Pyrénées, les blanquettes des Pyrénées qui viennent au premier de l'an avec un enfant de chaque côté, un enfant qui rit, un enfant qui pleure. On leur met à manger. Y a pas mal de provinces où on donne encore aux fées lors d'une naissance. Il y a une pièce pour les fées, on met une nappe et on leur sert un pseudo repas. Donc ces parcs, il y a un vrai lien entre les parcs et les fées, et il est fait par les religieux eux-mêmes qui disent il ne faut pas qu'ils croient au parc, machin, etc., et qui, ou à la déesse Diane qui court. Donc on voit bien que, en tout cas, pour les auteurs savants médiévaux, la fée est une survivance de la déesse, des déesses, de la multiplicité, parce que les nymphes, des déesses. Alors, la fée, qu'est-ce qu'elle fait ? On va prendre des choses qu'on retrouve d'une province à l'autre. Elles ont bien sûr des spécificités, je vous laisserai les découvrir. Mon livre est en vente, mais vous aussi, vous pourrez le trouver dans les bonnes bibliothèques, vous inquiétez pas, et l'emprunter. La fée, elle danse. Qu'est-ce qui danse ? Les nymphes, par exemple. Donc là, on retrouve, elles sont souvent habillées de blanc, de voile blanc, les nymphes aussi. Elles épousent des humains, les nymphes aussi. Y en a quelques-unes qui chassent, on retrouve Diane. Il y en a des méchants. Enfin voilà, donc on va comme ça, on va retrouver dans les faits des éléments qu'on retrouve dans les divinités. Par contre, il y a des éléments qui sont très mystérieux, qui peuvent peut-être remonter à la mythologie gauloise. J'ai trouvé quelques informations, mais pas suffisamment pour l'affirmer, mais je vais vous le dire là. C'est que les fées sont de grandes bâtisseuses. Voilà. Les fées et le diable sont les plus grandes bâtisseuses du terroir. Elles ont bâti, elles ont édifié les menhirs, elles ont bâti les dolmens, elles ont bâti des églises, le diable aussi d'ailleurs, des châteaux. En fait, tout ce qui semblait au peuple être merveilleux, un pont gallo-romain merveilleux, un château, une église à l'architecture curieuse, les mégalithes dont on ne savait pas d'où ils sortaient, tout ça, on disait, c'est l'œuvre des fées. Alors que les lutins, par exemple, qui correspondent vraiment aux démons, ne sont pas du tout liés à tout ça. Ils ont une geste, une histoire complètement différente. Voilà. Donc ça, c'est curieux. Et donc, j'avais lu chez un historien, que il y avait des prêtresses gauloises, mais c'était pas suffisamment sourcé, donc c'est pour ça. Il y avait des prêtresses gauloises qui devaient se déplacer et bâtir leur temple en bois, le débâtir, le rebâtir, machin. Ça pourrait être un lien avec ce côté bâtisseur des fées qui est déjà là au Moyen-Âge avec la fée Mélusine dont le poète Jean d'Arras racontera l'histoire. Donc voilà, donc j'en sais rien, mais ça, par exemple, c'est un élément très particulier. Et puis, alors ça pour l'effet tutélaire, pour l'effet tutélaire. Alors moi, ce que je n'ai pas fait. C'est du comparatisme, parce que j'estime qu'on est là. Le comparatisme, c'est un travail à part entière. Il faut vraiment connaître tous les aspects socio-culturels de chaque... Voilà. Donc je me suis contentée vraiment de travailler sur la France, même si tout ce que je dis est valable pour une partie de l'Europe. Mais les contextes étant différents, je ne veux pas aller par là. Ensuite, je suis assez prudente par rapport... aux traditions celtiques, parce que celte, c'est un mot inventé par les Grecs pour qualifier tout un tas de tribus qui venaient de l'Est. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas si toutes ces tribus avaient les mêmes croyances ou pas. Donc moi, je m'intéresse aux Gaulois. Les Gaulois, on a assez peu de choses. Le peu qu'on a, on peut effectivement... sur les inscriptions, par exemple, ou sur le calendrier de Coligny, dont je parlais ce matin, où on retrouve les fêtes de Samagnos. Mais on a très, très peu de choses. Et du coup, voilà, je ne fais pas de pont avec... voilà. Il est possible que les Gaulois aient... que les Gaulois aient eu les mêmes traditions que celles qui ont été racontées par les clercs, c'est-à-dire les religieux de l'époque au XIIe siècle, les mêmes qui ont traduit pour les germano-nordiques, les Eddas, les machins, etc. C'est possible pour l'Irlande, hein, que ces textes irlandais, qui sont des textes traduits par des religieux, possible, mais rien ne peut l'affirmer, rien du tout. Donc moi, je me contente de constater... de dire ce que je sais sur un territoire que je connais bien, dont je connais les contextes sociologiques, politiques, tout ça. Enfin, politique, on n'est pas encore que. Mais voilà. Alors oui, c'est possible. On a. Mais notre fée Mélusine, on la retrouve. Voilà, c'est vraiment une fée dont l'essentiel de la vie, c'est comme Gargantua. Quoi. Mélusine et Gargantua, ils sont quand même très sur le territoire. Territoire de la France que j'ai pris au XIXe siècle, parce qu'on a aussi une partie de la Wallonie. Enfin, voilà, il y a aussi. J'aurais pu déborder, mais voilà, je donne en introduction quel est le cadre de mon étude pour qu'elle soit. Je dis étude, mais c'est pas rébarbatif. Hein. Voilà. Donc, mais voilà. Mais oui, pourquoi pas. On a des faits tutélaires, mais ça c'est au Moyen Âge. Au Moyen Âge, à partir du XIIe siècle, parce que c'est Gervais de Tilbury, au XIIe siècle, il déjà raconte des histoires de fées mariées à des humains, donc qui sont ce qu'on appelle les fées tutélaires, qui sont à l'origine d'une famille, en fait, l'ancêtre d'une famille. Et il raconte donc ces mariages entre les fées et les humains, qui en général se terminent assez mal, parce que la fée a pour principe de donner à l'homme une interdiction. Interdiction de venir me voir tel jour parce qu'elle a sa queue de serpent, interdiction de m'accompagner, enfin bon, tout un tas d'interdictions. L'homme, évidemment, promet, Elle est belle et jeune et tout ça. Et puis, évidemment, l'homme rompt l'interdiction et la fée se barre. Voilà. Donc, ça se finit toujours mal. Oh, bon, j'en sais rien du tout. Ouais, ouais, non. Ah oui, oui, oui. Ah oui. Non, non, mais ça, ça serait intéressant, mais je vous dis, j'ai pas, voilà, j'ai trouvé ça, mais c'était pas suffisamment sourcé pour moi pour que je m'en serve.
Alors, ce qu'il y a de formidable avec Marie-Charlotte Delmas, c'est qu'elle répond par avance à mes questions.
Ah, mince.
Donc, du coup, moi, j'allais poser justement une question sur, mais comme vous ne faites pas de comparatisme, ça tombe à l'eau, ah oui, justement, parce que nous, ici, en tant qu'amateurs de littérature de fantasy et tout, c'est vrai que ça vient plutôt du monde anglo-saxon, donc on a plus l'habitude des fées, entre guillemets, celtes, irlandaises, etc. Bon, donc on abandonne, passons à autre chose, parce que moi, il y a une chose aussi que j'ai trouvé passionnante dans les quelques entrées que j'ai déjà lues, c'est tout ce qui est consacré aux lieux surnaturels. Alors, en particulier, j'ai une fascination, je le reconnais, pour les villes englouties.
Ah oui, on a énormément de, oui. On a énormément de légendes, de villes englouties, et ce sont des légendes très christianisées, à l'image de la ville d'Ispe, hein, bon, qu'on voit, alors, tous les villages des côtes bretonnes pensent avoir la ville d'Ispe au 19e siècle sur leur littoral. Elles sont toujours, alors, villes englouties, églises englouties, châteaux engloutis, carrosses engloutis, il y a tout un tas d'engloutissements, que ce soit dans les lacs, dans les marais, dans les étangs, sous la mer. Et sont des récits plutôt christianisés, parce que les raisons de ces engloutissements sont, pour une part, l'impiété des hommes, voilà, qui se conduisent pas comme il faut, etc. Et donc on est dans un châtiment divin, et pour l'autre part, le manque d'hospitalité. C'est-à-dire, il y a un mendiant qui, des fois, est un saint déguisé, le Christ, Dieu en personne, dont on se demande ce qu'il vient faire là, et qui frappe à la porte, et puis on va pas lui ouvrir, on va pas lui donner le pain, sauf une personne à l'orée du village qui va l'accueillir, qui va lui donner de quoi manger, de quoi se chauffer, et qu'il va sauver, bien entendu. Et alors que, en partant, tel Sodome et Gomorre, la ville va s'engloutir, où les gens vont se transformer en statues, enfin, etc. Non, on est, on a, j'en ai mis l'article lac à l'article, j'en ai mis partout, à l'article marais, à l'article étang, à l'article, parce que il y en avait tellement des villes englouties. Alors, je pense que ces villes, c'est comme pour les dragons, où je suis convaincue que c'est là, parce qu'on a retrouvé des ossements préhistoriques de sauriens, que le mythe s'est créé. Et je suis pas la seule à le dire, parce qu'Hérodote déjà en parle. Mais pour les villes englouties, je pense que on a retrouvé probablement des restes archéologiques peut-être d'anciennes villes romaines, et que ces restes c'est une hypothèse que j'aimais, et que ces éléments archéologiques ont pu donner l'idée qu'il y avait eu là une ville, et comme elle avait disparu, le clergé a créé la légende. Beaucoup de folkloristes du 19e étaient des religieux, parce qu'ils étaient aussi les personnes les plus lettrées. Ils faisaient partie des personnes les plus lettrées. Voilà.
Alors, autre chose aussi qui est fascinant et qui me semble être une spécificité là assez française, et c'est le vague amateur de cryptozoologie en même temps qui parle. Je me suis fait la réflexion, je suis allé lire tous les articles consacrés aux apparitions de bêtes.
Ah oui.
Hein, alors la bête du Gévaudan est un plus célèbre, et ça me semble quelque chose de très français.
Alors, oui, il y a la bête. Voilà. Oui, il y a la bête des Vosges.
Et continue, donc Marie-Charlotte Delmas.
Alors, oui et non, je vais un peu te décevoir, parce que les animaux fantastiques, dans les croyances populaires, sont d'abord des animaux ordinaires, mais qui ont deux particularités. Ils ont un comportement inhabituel et on les rencontre dans un lieu inaccoutumé. Donc ça va être l'âne, le bœuf, le mouton, etc. Et donc on va, si on a un âne qu'on rencontre sur un pont, qui en plus peut avoir une particularité physique et un comportement bizarre, parce qu'il rue et tout ça, on va dire méfiez-vous, c'est un âne lutin. C'est un animal fantastique. Donc, tous les animaux, et ça, c'est quand même très lié au passage des démonologues qui ont établi les travaux du diable, on va dire, et des démons, et tous les démons se transforment en animal. Voilà, le diable en n'importe quoi, mais tous les démons sont capables de se transformer, tous les mauvais esprits sont capables de se transformer en animal. Donc un animal, machin, voilà, c'est un mauvais esprit, parce que les lutins, ils sont loin d'être gentils et pas tous, et voilà. Donc et les fées, certaines aussi sont assez cruelles. On n'est pas dans l'angélisme, on est dans une vision païenne où le bien et le mal n'ont pas les mêmes frontières. Et donc du coup, voilà. Alors après, des animaux fantastiques qui seraient des bêtes surprenantes. Oui, bon, il y a la bête du Gévaudan, on l'a prise pour, les paysans ont émis l'hypothèse que ce pouvait être un loup-garou. Le loup-garou, bon, je vais pas y revenir, j'ai fait une conférence ce matin. Le loup-garou, c'est pas une bête fantastique, c'est une métamorphose de sorcier. Donc, bon. Et donc, on pensait que la bête du Gévaudan pouvait être la métamorphose d'un sorcier, etc. Après, les seuls animaux.
Par exemple, juste avant. Oui. Quelques décennies avant.
Oui, mais.
Il y en a d'autres au 19e.
On les a pas, si tu veux. Oui, mais les seules bêtes vraiment, qui ont perduré fantastiques, avec des allures fantastiques et tout, ce sont, les formes atténuées de dragons, les basiliques et les vouivres. Donc ça, on y a cru très longtemps. En 1901, on raconte à Marseille qu'il y a un basilic dans le grand puits de la ville. Alors, basilic, il se présente sous différentes formes. Hein. Ça peut être un coq serpent, ça peut être un petit dragon, ça peut être... Enfin bon, il y a tout un tas de... Parce que dans les livres des naturalistes du XVIIe, on les trouve. Hein. Ils sont... vous reprenez Ambroise Paré au XVIe, vous avez le dessin du dragon, le dessin de la vouivre, le dessin du basilic. Enfin bon... Et donc, on a envoyé des puisatiers dans ce puits parce qu'il était bouché. Enfin, il servait pas depuis un moment. Et il se trouve que les puisatiers, parce qu'il y a eu forcément des émanations de pourriture et tout ça, les puisatiers ont eu des soucis. Il y en a un qui est mort à cause des émanations. Enfin, ils ont dû remonter en vitesse. Et du coup, on a dit, il y a un basilic au fond du puits. Parce que le basilic, il tue de son regard. Et la seule façon pour le vaincre, c'est Méduse, en fait. Hein. La seule façon pour le vaincre, c'est de lui renvoyer un miroir pour le tuer lui-même quand il se regarde. Voilà, donc on a dit ça. On était au début du XXe siècle. On a craint qu'il y ait un basilic, etc. Mais il n'y a pas, dans les traditions populaires, si tu veux, c'est... Pour eux, une photo, faut se mettre à leur place. Je le disais pour les dragons. Le dragon, il est pas plus étonnant que l'éléphant. Dans les campagnes, on n'a pas vu de tigre, d'éléphant, de machin, de tout. Donc tout ça est très très étonnant. Le singe, par exemple, à Arles, il y a une catégorie d'animaux fantastiques qu'on appelle les sémiots. Et quand on te dessine un sémiot, c'est un singe. Donc il y a quelqu'un qui a dû voir un singe et a dit c'est un animal fantastique, c'est un lutin, c'est un machin. Mais donc désolé pour le cryptozoologue, mais mais ils sont à la campagne, ils vont pas chercher ailleurs, si tu veux. Il y a pas de voilà. Donc il y a peut-être des exceptions, mais celle-là en tout cas figure pas comme des légendes qu'on va retrouver très très régulièrement un peu partout.
Et là justement, alors de citer les singes par exemple, ça me fait penser aussi à cette tradition qui remonte à très loin des hommes sauvages.
Ah oui, alors la tradition de la tradition de l'homme sauvage, en fait, c'est, enfin, moi, dans ce que j'ai trouvé, là encore, bon, j'en ai parlé, désolé pour ceux qui étaient là ce matin, j'ai l'impression de redire les mêmes choses pour le loup-garou, mais il y a un rapport entre l'homme et la nature qui est un rapport vraisemblablement très primitif. Là, je vais quand même aller puiser, parce que j'ai pas d'autres sources dans la mythologie celte d'Irlande, et dans les fameuses fêtes, les grandes fêtes qui ponctuaient les saisons, puisqu'on a l'équivalent sur le calendrier de Coligny, au moins pour Samagnos. Et ce qu'on en sait, c'est qu'effectivement, lors des grandes cérémonies, les frontières s'abolissent entre le monde animal et le monde des humains. Elles s'abolissent entre le monde visible et le monde invisible. C'est-à-dire tout le monde, pendant ces grandes fêtes qui correspondent en fait aux solstices, aux équinoxes, peu ou prou, il se passe des choses célestes qui font que la nature entière est bougée. Donc ce qu'on appelle l'homme des bois, l'homme sauvage, moi j'ai fait une ouverture sur les hommes sauvages, on est là dans des restes de rites qu'on retrouve dans les carnavals par exemple, où on va se vêtir de peau de bête, il y en a encore, hein, de cornes, c'est-à-dire qu'on prend des attributs de bêtes qu'on peut porter, les cornes et la peau, et voilà. Et donc il y a une espèce, alors on connaît pas grand chose, mais une espèce d'osmose complète entre l'homme et la nature, et du coup l'homme sauvage, pour moi, c'est plus un homme, enfin c'est plus une légende polluée qui renverrait à un rite plus ancien d'initiation, comme je le pense pour le loup-garou d'ailleurs, d'initiation de l'homme qui repart à l'état naturel pour passer un autre palier dans les bois, ce qu'on retrouve beaucoup dans les récits de tribus primitives que nous a rapporté Lévi-Strauss et d'autres d'ailleurs. Voilà, on retrouve ce rite-là. Il n'y a pas de raison que, mais on n'a rien. Voilà, on ne sait pas.
Parce que si je me souviens bien, Charles VII est devenu fou au bal des Ardents. Ils étaient déguisés en hommes sauvages.
Oui, 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 bien sûr. Oui, oui, non, mais les feuillus, oui. le feuillu, c'est une tradition de mai. Donc on envoie quelqu'un recouvert de feuilles. Mais après tout ça va dégénérer, parce que après la noblesse va porter des feuilles, et puis il va falloir attraper le verre, et on disait je vous prends sans verre, alors si on n'a pas de verre sur soi, on va être puni d'un truc, enfin voilà, on n'est pas alors ça on le sait, parce qu'effectivement il y a des textes qui racontent les histoires de la noblesse. S'il y en avait autant qui racontent l'histoire des simples gens, ça serait tellement bien, parce que je pense que la même chose, enfin voilà, c'est des espèces de traditions un peu dégénérées pour moi.
L'heure a très vite tourné, bon. Mais peut-être une dernière question, puisque nous sommes ici à Épinal. Oui. Alors est-ce qu'il y aurait un lieu magique, quelque chose que vous pourriez nous recommander qu'on puisse aller voir en sortant d'ici?
Alors, dans les Vosges, les fées sont des dames vertes. Elles sont pas forcément très sympathiques. On les trouve au seau des cuves. On les trouve dans différents bois. Elles vous transportent, enfin les hommes surtout, elles les transportent, elles les baladent au-dessus des trucs et puis après elles les ramènent. Voilà. Donc c'est vraiment, on a dans la Meuse un animal fantastique là pour le coup qui s'appelle le mao. On a un autre animal qui s'appelle, je me rappelle plus comment d'ailleurs. Il y a le mao et le, enfin bon, je sais pas, je les ai mis, voilà, qui sont des, là pour le coup, tiens, si je me, il y a quelques animaux comme ça fantastiques qui sont à moitié bœuf, à moitié dragon. Moi, je les ai mis avec les dragons. Voilà, de toute façon, dans tous les bois, dans toutes les grottes, dans tous les arbres, des Vosges ou ailleurs, on plaçait des fées. Vous avez un folkloriste collecteur dans les Vosges qui s'appelle Léopold François Sauvé, qui a écrit le folklore des Hautes-Vosges, qu'il a publié en 1889. Si vraiment le folklore des Vosges vous intéresse, je vous renvoie donc vers ce Léopold François Sauvé. Vous le trouverez sur le site de la Bibliothèque nationale Gallica, gratuitement, puisqu'il est dans le domaine public. Et donc là, vous aurez ce folklore des Vosges. Je vous mets en garde, parce que Léopold Sauvé, il est un petit peu fantaisiste, et je l'ai parfois évité parce que j'ai trouvé beaucoup des recettes soi-disant des paysans qui étaient quasiment à l'identique de celles qu'on trouvait dans le Grand Albert. Donc je me suis dit, soit il a piqué direct dans le Grand Albert, soit il est vraiment tombé sur quelqu'un qui avait recopié le Grand Albert. Mais c'est possible, et je vais vous donner donc une dernière anecdote, c'est que Claude Seignolle, qui est ce grand romancier de littérature fantastique qui passera le temps et qui va avoir 100 ans cette année, le 25 juin, a commencé par collecter du folklore, ce qui a nourri son œuvre. Et il avait écrit un bouquin, justement, où il avait collecté de la sorcellerie en Berry. Et il continuait, et un jour, ou en Sologne, je ne sais plus, peu importe. Il est allé donc chez un monsieur pour lui dire, voilà, est-ce que vous avez des recettes, etc. Puis bon, il me disait, Claude, il faut attendre longtemps, enfin, c'est compliqué, les gens ne veulent pas trop dire. Tout. Et puis le monsieur, il finit par lui dire, parce qu'il voulait voir les grimoires, il voulait voir les cahiers que les gens faisaient. Et lui, oui, j'ai un grimoire, et vous pouvez me le montrer, oui, mais non, c'est secret, les grimoires, etc. Hein. Et puis il a fini par lui montrer son grimoire, et son grimoire, c'était le livre qu'avait écrit Seignolle, en Berry, que le monsieur avait annoté, et qui était devenu un grimoire. Voilà.
Magnifique, la boucle était bouclée. Alors, on prend peut-être une ou deux questions avec des réponses rapides.
Je sais même pas de quoi vous parlez. Je crois que chaque époque a eu ses croyances un petit peu surnaturelles, parce que voilà, c'est difficile de se dire qu'entre la vie et la mort, on peut pas avoir une prise sur son destin, qu'il n'y a pas des choses un peu plus, voilà. Je sais pas du tout de quoi vous me parlez, mais ce que peux vous dire, c'est que moi j'ai besoin pour travailler d'avoir un recul, et que ce recul m'a fait m'arrêter à la fin de la France rurale, c'est-à-dire aux alentours des années 30-40. Voilà. Donc après, bon, il faut, on peut pas, on n'a pas de recul, donc on peut pas voir l'ensemble des choses. J'entends, malheureusement, mon âge fait que c'est pas moi qui ferai ce livre-là, donc ça m'intéresse, mais voilà. Et puis ça, c'est une invention d'un bourreau. Enfin, c'est une invention d'un auteur qui a écrit les mémoires du bourreau Samson et qui a rajouté ça dedans au XVIIIe siècle. À la campagne, c'était surtout la croix sur le pain et le respect du pain. Mais l'histoire du bourreau, c'est une explication très tardive. Et... Non, c'était le respect du pain. Hein.
Alors, peut-être très brièvement, une toute dernière question.
Il a fait caca.
Voilà. Il y a un côté qui est pas bâtisseur, mais Gargantua, on va jamais le nommer comme une fée. D'ailleurs, les fées, c'est plutôt féminin. Mais du coup, Gargantua, ils sont plus dans la catégorie des géants.
Alors, Gargantua, c'est un géant, et moi, Gargantua a fait couler beaucoup d'encre. Mon hypothèse à moi, c'est que tous les lieux Gargantua, comme les lieux Roland, sont liés au livre de Rabelais, et non pas l'inverse. Qu'il est possible que ce nom de Gargantua ait été connu avant Rabelais, effectivement, mais que les noms de Gargantua qui pullulent en France, parce que Gargantua, quand il enlève son gravier de sa chaussure et qu'il crée un menhir, un rocher, un machin, il y en a dans tous les cantons, dans tous les villages, il y en a partout, et que du coup, qu'il a remplacé peut-être le nom d'ancien géant, parce qu'on a très très peu d'histoires de légendes de géants en France, qu'ils ont bien moins construit de mégalithes que les fées, et que quelques lutins, comme la tribu des Crillons, qui ont fait les alignements de Carnac, qui sont les lutins, bon, voilà. Mais Gargantua, moi, je fais partie de ceux qui pensent que c'est vraiment les livres, enfin d'abord le premier livre, Les Inestimables Chroniques, dont on dit qu'il est de Rabelais, en fait personne n'en sait rien, et puis derrière les trois livres de Rabelais.
Alors, ben, je vous propose que ça soit remis pour un débat l'année prochaine, parce que nous avons Catherine Valente qui vient d'arriver pour l'étape, pour la conférence suivante. Donc, merci beaucoup à Marie-Charlotte Delmas pour ces révélations passionnantes. Merci.